Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Pierre Tchernia, c'est un personnage de mon enfance, cet homme sympathique qu'on voyait à la télévision dans Monsieur Cinéma. Le cinéma, il le connaissait merveilleusement, mais il connaissait aussi très bien la chanson et l'opérette. Nous en avions parlé ensemble dans Étonnez-moi Benoît. Pierre Tchernia dans Étonnez-moi Benoît, c'était le 8 mars 2008. Pierre Tchernia, bonjour.
Bonjour.
La musique qu'on vient d'entendre a servi de générique à une célèbre émission de la télévision française de 1966 à 1987. Pouvez-vous nous dire le nom de cette émission et le nom du compositeur de la musique ?
Attendez, ça s'appelait... Il y avait le mot cinéma dedans, attendez, je ne sais plus... Que... Ah oui, ça passait le vendredi, ça s'appelait...
Mardi cinéma,
oh...
Je crois que c'était Monsieur Cinéma.
Monsieur Cinéma, voilà. Oh, j'ai bien fait de venir.
Et le nom du compositeur ?
Et le nom du compositeur, c'est Gérard Calvi, un homme pour qui j'ai toujours une grande affection, mais avec qui j'ai plus l'occasion de travailler. Et Gérard Calvi, c'était un élève du conservatoire qui, là-bas, était dans une classe de musique, bien sûr, et à la cantine, pendant les années 43-45, il avait fait connaissance d'un comédien qui était là, lui, dans une classe de comédie, qui s'appelait Robert Derry. Et ils sont devenus très copains. Et Robert lui disait, ah, tu sais, moi j'ai fait un spectacle qui s'appelle Les Gaufrettes. Je voudrais bien réussir à le trouver. Mais c'est difficile, et tu ferais la musique. Oh ben oui, c'est épatant. Et puis un jour... Robert, en 1948-49, a eu l'occasion de rencontrer le directeur du Petit Théâtre La Bruyère, chez qui il avait joué, parce que c'était l'époque des Vaches Maigres, hein, il trouvait un petit boulot, il le prenait bien sûr, et il le rencontre, et l'autre lui dit « Oh, moi je mets la clé sous la porte, parce que j'ai plus les moyens de monter des spectacles, tu fais quelque chose toi ?» Et Derry dit, écoute, moi j'ai un spectacle qui ne coûte rien. On essaye, et c'était Branquignol.
C'était les Branquignols, dont évidemment Calvi a été toujours le partenaire. D'ailleurs, si j'ajoutais, pour faire vraiment comme un Monsieur Cinéma, une question encore plus pointue sur la musique qu'on a entendue, c'est de quelle bande originale de film vient la musique du générique de Monsieur Cinéma ?
Calvi avait un immense talent, et surtout un genre de musique que j'appréciais particulièrement. Ouais. Mais quand il pouvait réutiliser quelque chose, il était ravi. Voilà. Et un jour, il me fait entendre la musique du film L'œuf, qui est un film qui méritait plus de succès qu'il n'en a eu. Mais
Jean Herman.
Oui, c'est Jean Herman, et c'était une pièce qu'avait joué Jacques Duby, avec de grands talents d'ailleurs. Et puis, je lui dis pourquoi pas.
Et d'une façon plus générale, la musique est très présente dans votre vie, Pierre Tchernia ?
La musique est présente quand je la choisis.
Voilà.
Car malheureusement, j'entends, si j'écoute la radio, ce que j'entends est tellement effrayant. Il y a deux choses que je ne supporte pas, c'est le bruit des motocyclettes et le bruit de ce qu'on appelle encore du jazz et qui n'en est plus du tout.
Bon, moi, en tout cas, des musiques, j'en ai choisi quelques-unes pour vous, alors j'espère qu'elles vont savoir vous séduire. Pam 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 du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts les mulots de mer. Mais oui, quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà.
gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand de Moussaillon, le commandant.
Quand on est matelot, on est toujours sur l'eau, on visite le monde, c'est le métier le plus beau.
C'est le métier le plus beau.
Du pôle sud au pôle nord, dans chaque petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors.
Nous garde ses trésors, pas besoin de pognon, mais comme compensation, à toutes nous donnons un petit morceau de nos pompons. Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts, le gulot de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du Moussaillon au commandant. Les amours d'un col bleu, ça ne dure qu'un jour ou deux, à peine le temps de se plaire et de se dire adieu.
Et de se dire adieu.
On a un peu de chagrin, ça passe comme un grain, les plaisirs de la terre, c'est pas pour les marins.
C'est pas pour les marins. Nous n'avons pas le droit de vivre sous un toit. Pourquoi une moitié quand on a le monde entier?
Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les soit à bras ouverts, le vieux loup de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Ils se consolent tous, voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du Moussaillon au commandant. Du petit jusqu'au plus grand, du Moussaillon au commandant. Du petit jusqu'au plus grand, du Moussaillon au commandant.
Les gars de la marine par les comédiennes harmonistes. Je peux dire, Pierre Tchernia, que vous avez fredonné avec les paroles exactes pendant toute la chanson.
Ah hein. Mais oui, et puis j'ai même fait des arrangements mélodiques qui n'étaient pas en bonne place parce qu'ils étaient plus tard.
Et, donc c'est une musique qui vous dit visiblement quelque chose.
Je vais vous dire pourquoi elle me dit tant de choses. Dans les années 34-35, mon frère aîné et une de mes sœurs aînées achètent un phono. Et bien sûr, ils achètent des choses qui ne m'intéressent pas du tout. D'abord, des musiques de jazz.
Il faut dire que vos frères et sœurs aînés étaient beaucoup plus âgés que vous. Hein.
Moi, je suis d'une famille de 4 enfants, je suis le 4e, et les 3 autres auraient pu être mes parents.
Voilà, c'est ça.
C'est vous dire à quel point... Alors, je disais, mais je comprends rien à tout ce qu'ils disent, parce qu'effectivement, quand Armstrong chante quelque chose, avec la voix, on comprend pas grand-chose, et de toute façon, c'est de l'anglais. Ouais. Alors, ils me disent, écoute, on va t'acheter un disque. Et alors, ils ont acheté... Les gars de la marine. De l'autre côté, il y a « Quand la brise vagabonde
oui. ».
Et les comédiennes harmonistes, je me disais « Oh oui, c'est des Américains, mais ils parlent français ». C'était pas des Américains, c'était des Allemands. Et alors, il y a des gens qui ont une passion pour eux, c'est les frères Jacques.
Ah oui. Mais alors, mis à part les gars de la marine, le goût de la musique dans votre famille, à moitié russe, à moitié française, russe par votre père, française par votre mère, il vous est venu par le cinéma, par les premiers films.
Non, mais il y a une de mes sœurs qui jouait du piano, qui en jouait pas mal, et moi j'écoutais ça avec émerveillement. Et puis, quand j'ai été un peu plus grand, mes parents m'ont proposé de prendre des leçons de piano. Et j'étais déjà suffisamment feignant pour renoncer, et je le regrette aujourd'hui.
Mais vous n'étiez pas assez feignant pour aller déjà beaucoup au cinéma?
Ah oui, j'allais au cinéma, bien sûr. J'habitais le Valois, j'allais au Magic Ciné. C'est ça. J'y allais soit le jeudi après-midi, soit le mercredi soir. Le mercredi soir, c'est quand mes parents allaient avec moi. Et le jeudi, il faut dire que pour qu'on comprenne bien le sens de mes paroles, le jeudi à cette époque-là,
oui, c'était
le mercredi
enfants,
aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, oui.
Et puis c'est là qu'un jour j'ai vu un film qui m'a bouleversé, qui m'a embarqué dans le monde du spectacle, avec une préférence pour le cinéma. C'était la Chevauchée fantastique de John Ford. Voilà. Parce que ce jour-là, j'ai eu vraiment une sorte de chemin de Damas, ou de chemin de Lordsburg, si vous voulez. J'ai été pris par ce film que je trouve qui est un film admirable de Ford. Mmh. J'ai eu en même temps le sentiment que tout ça se fabriquait et qu'on pouvait avoir suffisamment de chance pour participer au monde du spectacle.
Il y a aussi dans le cinéma français d'avant la guerre déjà un personnage intéressant qui fait un peu un lien entre le cinéma et la musique et qui a justement écrit la version française des paroles des gars de la marine, c'est monsieur Jean Boyer.
Jean Boyer.
Quelqu'un que vous avez connu, je crois, Pierre.
Oui, Charmier. Oui, je l'ai connu, Jean Boyer, et il a fait des films très très réussis, des comédies très réussies, avec bien sûr les merveilleux comédiens des années 30. Hein.
Voilà. Il y a notamment Circonstances atténuantes.
Et Circonstances atténuantes, qui est un film épatant, avec un scénario en acier. Ouais. Et dans Circonstances atténuantes, musique de Van Paris.
Dont on reparlera tout à l'heure.
Paroles de Jean Boyer. Ouais. Mais d'ailleurs, il l'a raconté dans son excellent livre de souvenirs Van Paris. Uh-huh. Un jour, Boyer dit, tu sais, on devrait faire une chanson parce que il y a toute une séquence dans le bistrot. Pourquoi il n'y aurait pas une chanson chantée par tout le monde? Il y a Simon, il y a Arletty. Ah ben, pourquoi pas? Et ils en discutent tous les deux un soir après le dîner. Et l'un des deux, je ne sais plus lequel, dit « Ah, tiens, je me souviens, je connaissais quelqu'un qui disait tout le temps « comme de bien entendu » et qui répétait ça. C'est rigolo, cette formule « comme de bien entendu ». Et puis voilà, Van Paris a dû se mettre au piano, Boyer a commencé à faire des paroles, et des paroles, il les faisait très bien. Ils ont fait tous les deux toutes les chansons de Chevalier des années 38, 39, 40. Oui. Et appelez ça comme vous voudrez, moi je m'en fous, qui est une chanson sur l'argot. Le texte est succulent.
Alors, on va rester un peu dans les souvenirs d'enfance et on va en écouter justement un souvenir d'enfance, mais peut-être vous pouvez nous dire quelques mots avant, puis on en reparlera après l'avoir entendu. C'est le souvenir d'enfance en musique de Noël Noël.
Ah, j'allais beaucoup au cinéma. Et mon père n'était pas toujours libre pour aller au cinéma parce qu'il avait sa... Il avait son entreprise et il fallait qu'il y vive. Alors j'allais beaucoup avec ma mère. Et étant tout petit, ma mère m'a beaucoup emmené dans un petit cinéma qui se trouvait au métro Rome. Et là, il y avait un petit cinéma qui s'appelait le Ciné Lotto. Lotto, c'était le journal de sportif d'avant-guerre sur papier jaune avec un titre en lettres gothiques. Ça m'a toujours paru incompréhensible qu'on parle de Tour de France avec des lettres gothiques. Et là, il y avait des programmes courts, comme il y avait dans des cinéacs dans les gares, des programmes qui duraient une heure, où il y avait en général deux ou trois bulletins d'actualité, car il y avait plusieurs actualités. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Hein. Il y avait toujours un documentaire, c'est-à-dire le moment insupportable sur la cueillette des oliviers en Basse-Provence. ou bien le mystère des écluses. Bon. Mais il y avait toujours des dessins animés. On voyait des tas de films, et qui étaient des films comiques en général, parce que ma mère adorait ça. Et puis je me souviens qu'elle me disait toujours « Un jour tu verras des Buster Keaton, un jour tu verras des Buster Keaton ». Et quand j'ai vu des Buster Keaton, je me suis dit « Elle avait raison ». Bien, et là, on avait vu des courts-métrages avec un personnage qui s'appelait Adémaï. Voilà. Et Adémaï était la création d'un chansonnier tout à fait remarquable, Noël Noël, un chansonnier qui s'accompagnait au piano et qui écrivait paroles et musique, des chansons extrêmement subtiles, et c'est lui qui a fait par la suite les films comme Les Casse-Pieds.
Regarde bien cette maison, grisâtre comme une prison, elle est laide, tu as raison, mais c'est celle de mon enfance. J'étais jeune, blond, frais, ma foi. Elle a bien moins changé que moi. Devant le temps, je m'aperçois qu'elle a montré plus d'endurance. Cette cour me vit tout petit avec un gros nœud rose ici. Des cheveux blonds en boucles rondes. Là, je n'ai plus mes boucles blondes, ni mon ruban dans les cheveux. Mais pour maintenant, ça vaut peut-être mieux. Sous l'escalier, près du compteur, là, souvent, je jouais au docteur avec la fille du percepteur. Jeu bizarre, mais sans malice. Jeu innocent qui consistait à le sculpter. Je lui tâtais les mollets, puis lui tapotais d'un air grave le dos, les cuisses. Vers mes 20 ans, dans un salon, je l'ai revue. Des cheveux blonds, un charme fou, des yeux immenses. La salle en plein de déférence. J'ai pensé du fond de mon cœur, j'aurais bien encore au docteur. Au-dessus de chez nous, tu vois, habitait le petit Dubois. Il allait en classe avec moi, c'était l'élève phénomène. Il raflait tous les prix Henri, celui de latin, grec compris, ne laissant pour moi que le prix d'encouragement et d'hygiène. Fin juillet, pour lui, quel succès, prix d'histoire, prix de français, de dessin, de mathématiques, tous les prix, c'était fantastique. Depuis, j'ai revu ce héros, il est poinçonneur au métro. Entre la vieille habitation et mon cœur rempli d'émotion, comme en une surimpression, la douce ombre de maman bouge. Sa sollicitude toujours me rappelle en ce coin de cour une anecdote, oui, le jour où ma sœur me colla du rouge. Elle m'avait dit, qu'est-ce que t'as, t'es tout pâle, rentrons pas comme ça. Mère s'inquiéterait, je vais te mettre quelque chose. Et j'étais rentré le teint rose. Mais maman de m'examiner, qu'est-ce que t'as, t'es tout congestionné. Ce vieux couloir m'a vu passer, écolier, l'air tout tracassé. Papa, qu'est-ce qu'il allait me casser, je rapportais mes notes de problème. J'étais 30e sur 43, cherchant des excuses de choix. Je me disais, ben, je suis quoi, le premier des 13 derniers quand même. Et leur problème que c'est ballot, un robinet débite de l'eau, un autre en bas vide le liquide. Dans combien de temps la cuve sera vide? Dans combien de temps, but, moi, fais pas, fallait pas ouvrir celui d'en bas. Assez loin, prenons congé. Tiens, le vieux seau n'a pas changé. À droite, il est toujours rangé sur le rebord de la fontaine. La fontaine qui m'entendit à 12 ans dire embrasse-moi, dit Germaine. T'auras de mon sucre candi et puis de mon chocolat, Germaine. J'étais jeune alors, il est vrai qu'à présent, chérie, toi je t'ai. Ce sont emplettes sur emplettes, bijoux, fourrures et toilettes pour attacher ton cœur léger. Tu vois, le son n'a pas changé.
Noël Noël, qui s'accompagnait donc lui-même au piano en 1931. Évidemment, ça ne nous rajeunit pas, mais ça garde un charme fou, ce souvenir d'enfance, hein, Pierre Tchernia.
Oui, c'est une nostalgie de souvenirs qui lui appartiennent, mais qui sont éternels.
Voilà. Oui.
Le saut n'a pas changé.
Bon, et faut revoir les films de Noël Noël, les Adémaïs, tout ça. Honnêtement, je veux dire, mis à part la sympathie qu'on porte au personnage.
Ah oui, mais il y a des films. Il y a par exemple le Père Tranquille, qui est un scénario de lui, qui raconte une comédie pendant l'occupation, qui a été tournée par René Clément,
oui.
Très bien réalisé. Ben, c'est un film plein de succès. Et puis surtout, il y a un film, moi, auquel j'attache de l'importance, c'est Les Casse-Pieds. Les Casse-Pieds qu'il a fait avec Gilles Grangier. Et dans Les Casse-Pieds, vous avez des trucages. Vous avez, en fait, on est très près de Sacha Guitry.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un. Il raconte une histoire et toutes les choses lui obéissent. Ça a beaucoup de. Pour moi, c'est une des grandes formes du cinéma. Mais Sacha Guitry. Quand il faut rendre hommage à Sacha Guitry, il faut du temps.
En tout cas, vous étiez tellement passionné de cinéma que vous êtes entré, donc, jeune homme, à l'IDEC, qui était la toute nouvelle, je crois, grande école de formation au métier du cinéma.
À dire la vérité, j'ai fait d'abord l'école de photo et de cinéma, où j'ai appris le métier de caméraman, et puis j'en suis sorti sans avoir le diplôme, parce que j'avais une note éliminatoire en sensitométrie. La sensitométrie, c'est l'étude des pellicules, la chaleur des bains, enfin des. Et vraiment, j'avais un zéro pointé, et le directeur de l'école de photo et de cinéma où j'étais m'a dit, écoutez, c'est embarrassant de vous laisser partir sans diplôme, mais les gens de l'IDEC seraient d'accord pour vous prendre directement en seconde millions d'années sans faire de concours d'entrée. Comme ça, vous, parce que vous irez plutôt vers la mise en scène que vers le... J'ai dit, mais volontiers, très bien, bravo. Et puis, et je me suis trouvé à l'IDEC où j'ai passé un an.
Et l'ambiance de l'IDEC, c'était un peu genre cahier du cinéma, très sérieux, des intellos de la pellicule.
Il y avait de tout. Il y avait pas mal de feignants. Il y avait quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et j'ai continué d'ailleurs, qui était notre ami Claude Sautet. Et il a continué en faisant des films à me ravir aussi.
Et même vous, vous en avez fait, ce qui prouve qu'on peut faire du cinéma sans être bon en sensitométrie.
Oui, mais c'était pas indispensable. Mais voilà. Ma formation technique m'a permis par la suite, à la télévision comme au cinéma, d'avoir toujours avec le directeur de la photo une conversation chaleureuse.
Alors dans cette époque, ces années un petit peu d'apprentissage, j'ai envie de dire, vous avez quand même finalement fait pas mal de métiers, toujours autour du spectacle, et vous avez notamment aussi été un homme de radio, vous avez fait partie du club d'essai de la radio.
Oui, alors disons les choses telles qu'elles sont, quand je suis à l'IDEC, un jour, je vois sur le panneau d'information aux étudiants, si vous vous intéressez à la radio, venez donc au club d'essai de la radiodiffusion nationale, française, National, c'était pendant l'Occup. Et le mardi à 17h30, séance d'improvisation. Je me dis, qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Alors, je sors de l'IDEC où j'avais cours, je me dépêche pour aller rue de l'Université, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, on me dit, mais c'est au premier, mais attention, c'est déjà commencé. Alors, je frappe à la porte, j'ouvre, et je trouve une quinzaine de garçons et de filles accroupis sur de la moquette. Et deux vieux messieurs qui avaient au moins 30 ans, il y avait Blin et Oberlin qui appartenaient au club d'essai. J'entre et on me dit, mais monsieur, je dis, bah, excusez-moi, moi j'avais cours, je suis obligé de l'improvisation. Tenez ! Et il prend un chapeau, à l'époque on portait des chapeaux encore, il prend son chapeau, il me l'envoie improviser sur ce chapeau. Et il paraît que j'ai attaqué en disant, mais c'est le chapeau de mon frère, ça. Pourquoi il est venu ici, mon frère?
C'est bien.
Il fait pas de radio, il connaît personne. Et alors, tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde s'est intéressé à ce que je racontais. Et moi, je suis parti. Chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Jamais,
c'est drôle,
jamais.
On pourrait faire ça pour engager des gens à la radio, des concours d'improvisation.
Et alors, Blin et Oberlin m'ont dit, ah, mais restez avec nous. Et puis, quand ça a été fini, les autres sont partis, après avoir fait chacun une petite impro. Mais ils ont eu moins de succès parce que je venais de les amuser. Et je le dis sans aucune gloriole, mais je venais de me trouver dans une situation que j'ignorais complètement. C'est l'obligation de se lancer dans quelque chose.
Et vous avez fait quoi à la radio, alors, par la suite?
Et alors, par la suite, ce club d'essai de la radiodiffusion française était un endroit tout à fait remarquable, dirigé par un poète qui était Tardieu. Et il y avait là-dedans des gens que on m'a dit, mais restez avec nous, vous allez... Et il y avait Agnès Capri, qui était une chanteuse très fine, qui avait un cabaret, et qui faisait une émission dans laquelle il y avait des jeunes chanteurs, des auteurs de sketchs. Elle me dit, mais c'est très bien ce que vous faites, c'est vous qui allez présenter, le cabaret de la plume d'autruche. Le cabaret de la plume d'autruche. Et alors, attendez, il y a une suite à ça. Et puis, il y a eu Florent qui me demandait de faire aussi la Foire Saint-Germain. Et je me suis trouvé brusquement à présenter des émissions. J'ai été émerveillé parce que j'ai vu des musiciens qui jouaient à plusieurs alors que je ne connaissais que des tapeurs de piano. J'ai fait la connaissance de Boris Vian. J'ai fait la connaissance de François Billedoux. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que en avril 48, à la télévision, dont nous ignorons tout, bien sûr, on dit, venez donc faire une émission du cabaret de la plume d'autruche à la télé. Et je me suis trouvé, en avril 48, pour la première fois de ma vie, devant des caméras de télévision.
Alors la télévision, on va y revenir tout à l'heure, mais là on va rester dans les années 48-49, j'avance d'un an. Et parce que dans ces années-là, vous avez aussi été un artiste d'opérette, on peut le dire. on reparlera plus en détail de Georges Van Paris, mais j'ouvre son journal merveilleux, Les jours comme ils viennent, dont vous avez déjà parlé. Et je vois ce passage, c'est sur les répétitions d'un petit opéra bouffe qui s'appelait La Tour Eiffel qui tue. Distribution arrêtée, à part Fabien Loris dans le rôle de Cœur d'Apache, rien que des inconnus tous très jeunes, Pierre Olaf, Pierre Tchernia, Philippe de Cherizet, Alice Sapritch, que Jean Marsan a connu au conservatoire, s'est vu confier le rôle d'une cocotte, etc., etc. On va tout de suite écouter un petit extrait, c'est la marche des polytechniciens.
Et voilà pourquoi j'ai demandé le concours de l'école polytechnique.
C'est l'école polytechnique, vive les gamins, les bêtas. Tous les gens qui nous font la nique sont autant de gros bêtas. Grâce aux équations de tous les degrés, nous gouvernerons un jour l'univers. Tout le monde aura, bon gré ou mal gré, le binocle et le tinvet.
Binôme,
binôme, voilà les symboles de l'X. Binôme, binôme, voilà quels sont nos trois points fixes. Vive notre chère école, paradis des grands cerveaux, hors des envies et d'école, les hommes sont tous dévots. Ah bah, Euripide et Sophocle, bicorne, binôme et binocle, voilà, voilà les symboles de l'X.
Voilà de l'X,
voilà de l'X,
voilà de l'X.
C'est formidable parce que vous pouvez tout chanter ce matin.
Ah, ah, oui. Mais alors moi programme. Je suis pas dans le disque.
Vous n'êtes pas là dans l'enregistrement.
Le disque a été fait 5 ou 6 ans après. Oui. C'est Yves Robert qui l'a fait avec une distribution qui n'était pas celle du départ, bien sûr.
Il y a d'ailleurs donc ces polytechniciens qui en fait sont opposés à la construction de la Tour Eiffel parce qu'ils ont décidé qu'elle allait s'effondrer aussitôt.
C'est Guillaume Anoto qui était un homme de grande verve, journaliste et auteur. Et l'histoire se passe effectivement. La Tour Eiffel elle est de 89, donc ça se passe en 90. Ouais. Et les polytechniciens ont décidé que la Tour Eiffel allait s'écrouler ils veulent absolument rendre Eiffel. Ils voudraient le traîner devant des tribunaux, ils voudraient le tuer. Alors il y a des tentatives d'assassinat ridicules. Et puis il y a une jeune fille qui s'appelle Marie Nuage, qui est la fille de Gustave Eiffel et qui tombe amoureuse d'un poète que jouait Michel Deray. Michel Deray, qui était le petit-fils du général Gallieni et qui était une des têtes les plus astucieuses du Saint-Germain-des-Prés des années 50.
Vous chantiez, vous, dans le spectacle?
Bien sûr, mais je chantais la marche
des polytechniciens, justement. Oui, oui, évidemment.
Et puis, j'avais même une entrée de tableau où je chantais « Mes bons amis, merci, merci, merci d'avoir répondu à notre appel. C'était tout natuna, c'était tout natuna, c'était tout natuna, tout natuna, tout naturel. Voici la chambre du crime. » Ah ça, mais pourquoi chantons-nous? Ah oui, vous avez raison, voici la chambre du crime.
Ah oui, vous pourriez reprendre.
Hein, c'était une attaque de tableau.
Dites-moi, Pierre Tchernia, j'aimerais peut-être qu'on s'arrête un petit peu à ce grand personnage de la musique française, musique de cinéma, musique de spectacle, chanson, justement, qui était Georges Vamparis. Comment est-ce que vous l'avez rencontré?
Eh bien, Michel Deray vient me chercher un jour en me disant, voilà, je vais mettre en scène un spectacle musical et je voudrais que tu joues avec nous. Je lui dis, mais... Je le connaissais vaguement. Je lui dis, mais Michel, moi, je suis pas comédien. Il me dit, mais tout le monde est comédien. Physiquement, tu seras très bien. Ça serait rigolo. Et comme je n'ai jamais su refuser quoi que ce soit de nouveau, j'ai dit, ben, bien sûr. À l'époque, je cherchais un stage dans le cinéma et j'en trouvais jamais. Alors bon, tout moyen de gagner un peu ma vie était bon. Je lui dis, ben très bien. Et alors c'est là où j'ai découvert qu'il y avait Anoto qui était l'auteur, Jean Marsan, un homme d'une grande finesse, qui écrivait les lyrics, comme on dit, les paroles des couplets, et puis Georges Vamparis. Et alors là, je dois dire que moi, quand Michel m'a dit, c'est Georges Vamparis qui fera la musique, j'ai dit, le Georges Vamparis, l'ami de René Clair.
Pour vous, voilà, c'était le musicien
du
cinéma d'abord.
C'était le musicien de René Clair.
De René Clair.
Et René Clair était, qui est un homme dont on ne parle plus jamais, est un homme qui m'avait, au début des ciné-clubs, en 45, quand j'ai vu les films de René Clair, quand j'ai vu Le Million, quand j'ai vu toute la série, j'étais ébloui par la légèreté, la drôlerie, la finesse de ça, et toujours les petites chansons dans le million quand tout le monde montons, tarada, montons, montons vers la lumière. Nous verrons bien s'il dit la vérité. Ce sont tous les commerçants du quartier qui montent en rythme l'escalier pour aller chez l'homme qui avait un billet de loterie gagnant. Boum, boum, boum. Et puis, vous voulez pas que je vous raconte aussi les enfants du paradis, non?
Restons un peu avant Paris. Vous êtes bien entendu.
Et là. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que Van Paris, vous nous avez lu un texte où il dit, il était très heureux de voir ces jeunes gens qui ne chantaient pas, en principe. Ouais. Et alors, ça a été merveilleux parce qu'il nous a, pris en main exactement comme des petits enfants. Il nous a appris note à note à chanter. Mais ce qu'il y avait de prodigieux, c'est que ensuite il a laissé quelqu'un au piano, mais les premières représentations, il les assurait lui-même.
C'est ça.
Et vous aviez l'impression de savoir chanter. Pourquoi? Parce que lui, il glissait son piano, il vous rattrapait, le ton qui n'était pas bon, il vous l'imposait, c'était prodigieux.
Et c'était par ailleurs un homme très cultivé, très raffiné.
Admirateur de, particulièrement de Debussy, mais de beaucoup d'autres musiciens dont il nous parlait. Il faisait collection d'affiches, il allait aux puces, il allait chercher. Il avait son grand appartement près de l'Étoile était un endroit de rêve avec ses deux petits chiens. Et puis ses enfants, qui étaient des beaux jeunes enfants, sa femme, qui était admirable, une belle femme d'origine espagnole, qui a fait d'ailleurs les décors de la Tour Eiffel qui tue. Il y avait une atmosphère, et il se mettait au piano, et c'était le ravissement.
Alors vous nous avez apporté justement un petit document de Van Paris au piano.
Oui, ce sont des documents qui viennent d'un organisme extrêmement intéressant, qui s'appelle... comment vous dites maintenant? Vous dites pas la RTF, vous dites quoi?
Radio France, je crois.
Radio
tout
France,
simplement.
Bien, hein, voilà. C'est un beau document de Radio France.
Oui, je suis mécontent. Enfin, mécontent, je suis contrarié tout au moins. Je suis contrarié parce que je me suis aperçu récemment que je suis extrêmement plagié. Extrêmement plagié. Et par des gens, des confrères, enfin, que j'estime généralement pas mal, n'est-ce pas? Par exemple. Je vais vous citer un nom au hasard, Mozart, n'est-ce pas? Bien, Mozart m'a un petit peu copié, n'est-ce pas? J'avais écrit, il y a bien longtemps d'ailleurs, j'avais écrit une chanson pour Albert Préjean, c'était au début du film sonore, une chanson qui s'appelait « Si l'on ne s'était pas connu ». Chanson que Préjean chantait dans un soir de rafle. Et bien dernièrement, je me suis aperçu en ouvrant un recueil de sonatines de Mozart que Mozart s'est servi du thème que j'avais écrit pour Préjean et naturellement, au lieu d'un fox, il en a écrit une petite sonatine que je vais vous jouer si vous voulez pour vous montrer à quel point Mozart s'est servi de cette chanson de Préjean. D'ailleurs, c'est pas la seule plagiat que cette chanson a suscité. Car si Mozart en a fait une petite sonate, Chopin, lui, pourtant, c'est un homme qui avait des idées, pourtant, n'est-ce pas bien? Chopin aussi s'en est servi. Chopin, lui, en a fait un nocturne. Voilà le nocturne que Chopin a écrit sur ma chanson. Thank you.
je disais que c'était un homme cultivé. Là, il suffit d'écouter la maîtrise de tous les styles musicaux, hein, à partir d'un thème de chanson aussi simple.
Et puis, il était un pianiste excellent. D'ailleurs, il a fait ses études, il avait une envie folle de faire de la musique, et il est devenu le pianiste vous savez, dans les années 20, il y a des... Évidemment, c'est pas un public populaire qui va là, mais il y a le Bœuf sur le Toit, il y a chez Fischer aussi, qui étaient des endroits qui étaient la suite d'ailleurs des cabarets 1900, les cabarets de Bruant et tout ça, mais pour une population de bourgeois évolués. Et il était le pianiste de chez Fischer, et tous les gens qui ont connu cette époque disaient qu'il était un admirable pianiste.
Je voudrais bien, Pierre Tchernia, qu'on revienne un petit peu à votre carrière maintenant de cinéaste, ou disons d'homme associé à l'histoire du cinéma de diverses façons, puisque vous avez été notamment, on a parlé au début de l'émission de Robert Derry et de La naissance des Branquignoles, mais vous avez été le scénariste de La Belle Américaine, qui est un excellent film des Branquignoles.
Oui, c'est La Belle Américaine est une histoire très, très simple. Ouais. C'est en 1955, quelque chose comme ça. Nous faisions très souvent à la télé des émissions en direct de Londres vers la France, de même que les Anglais, eux, faisaient à Paris des émissions pour leur public. Et à plusieurs reprises, je vais comme ça faire des émissions. Et j'avais, à l'époque, j'avais donc fait la connaissance de Derry, de Calvi, des Branquignoles. Et un jour, je fais une émission là-bas. C'était une émission sur le musée Tussaud. Madame Tussaud était une émigrée de la Révolution française qui avait emmené sa collection de figures de cire, et ce qui a ensuite été le musée Grévin en France, mais c'était le musée Tussaud. Et en sortant du musée Tussaud le soir, je me dis, je vais retrouver les Derry. Parce qu'il était, on finissait vers 10h30, 11h, et je vais donc les chercher à la sortie de leur théâtre. Ah, mais tu es à Londres? Oui, j'ai dit, pas eu le temps de vous. Eh ben, on va dîner ensemble, et on s'en va dîner dans un restaurant d'acteurs à Londres. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, je dis, voilà, je fais ci et ça. Ah, l'autre jour, je vais te raconter ça parce que j'allais chez ma mère, j'habitais le 17e arrondissement, ma mère habitait le Valois-Perret, et j'y allais donc à pied, et elle habitait dans... Je vous parle des années où il n'y a pas encore le périphérique. Donc je traverse tous les quartiers, les vieux quartiers de Levallois-Perret, où il y avait beaucoup d'industries automobiles, mais d'artisanat automobile. Et je passe devant une maison délabrée, une grise, et il y avait devant une voiture américaine décapotée, superbe, blanche. Je me dis donc, c'est quand même, ça n'a vraiment aucun rapport. En fait, il y avait un type qui faisait de la tôlerie, qui venait de la repeindre et qui l'avait déposée là.
Et c'est le point de départ du film.
Je me disais, si un habitant de cette maison avait cette voiture, sa vie changerait. Bon, puis c'est tout. Et alors, je raconte ça à Derry. Je lui dis, tu sais, ça pourrait faire le début d'un film. Il me dit, mais oui, t'as raison. Et le lendemain matin, je rentre en France. Et à l'époque, je me méfiais de l'avion. Et je rentre par le train.
Et vous voulez dire qu'il y avait déjà un tunnel sous la...
Non, mais il y avait on mettait le train sur des bateaux.
Ah oui, pardon.
C'était merveilleux parce qu'il y avait un caractère d'aventure maritime pour une heure. Et qu'est-ce que je trouve sur le quai? Derry. Il me dit, écoute, j'ai mal dormi parce que c'est un sujet, il faut qu'on le fasse. Il faut, ne le raconte à personne, il faut qu'on fasse ça ensemble. Puis je suis rentré à Paris. Eux, ils sont repartis ensuite. Ils ont fait leur tournée en Angleterre. Puis ils sont partis aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils sont restés longtemps. Et nous avons écrit La Belle Américaine par correspondance.
Et dans les spectacles des Branquignoles à l'époque, il y avait aussi déjà parfois des petites apparitions d'un comédien qui allait devenir le personnage principal de votre film le plus célèbre, c'est Michel Serrault. On voit dans Les Belles Bacchantes, etc.
Oui.
Il faisait des petits numéros musicaux déjà.
Oui, dans Les Belles Bacchantes, oui. Hein?
C'est comme ça que vous l'avez connu, Serrault?
Non, Serrault, je l'ai connu. C'est quand il est parti, hélas, ça a été il y a quelques mois.
Oui.
J'ai réalisé qu'on se connaissait depuis 1951.
Oui.
À l'époque, j'étais au journal télévisé. Et alors, au journal télévisé, on cherchait, le matin, avec sa bague, on lisait les journaux, on cherchait une petite nouvelle. Et je dis, regarde, il y a un truc rigolo, il y a sur la place Saint-Sulpice, va s'installer un vieux théâtre forain, mais avec des gens d'aujourd'hui. J'ai envie de faire un reportage là-dessus. Mais oui, t'as raison, faut faire ça. Et j'ai été dans ce petit théâtre forain, mais où on jouait du Prévert, bien sûr, on jouait des poèmes, des chansons, il y avait des petites danses. Et dans le tournage, j'ai parlé avec un comédien qui m'a bien plu, et puis on s'est revus par la suite, on s'est aperçu qu'on avait exactement le même âge, et qu'il y avait des choses qui nous amusaient. Et puis un jour, lui, il a rencontré... Poiret, le cher Jean Poiret, et ils ont réfléchi, ils ont cherché ce qu'ils pouvaient faire ensemble, et ils ont fait leur merveilleux spectacle ensemble.
Bon, alors te voilà sur ta nouvelle face, on veut donc reprendre le départ. Enfin, d'après ce que je vois, tu es resté là-bas 5 ans, tu ne t'es pas arrêté une seconde, tu as vraiment une activité intense sur tous les plans, sentimentale, professionnelle, enfin, n'en disons pas plus. Tu viens donc maintenant ici un peu pour te retremper dans l'ambiance française, puisque tu es quand même de souche française, il ne faut pas l'oublier, te reposer un peu.
Pas très longtemps, parce que je viens surtout en France quand même pour tourner, je ne sais pas si je commence dans une 8aine de jours.
Ah, tu tournes encore ici?
Oui.
Ah,
bah, oui,
t'es vraiment... à la sable. Oui. Tu viens tourner quoi dans
une vie de Chopin tourner.
Ah bon, ah ça se tourne ici finalement?
Oui.
En France même?
Sur les lieux même, on va faire.
Ah bon, bon, bon. Ah bon, bon, bon. Ah, ce fameux projet voit le jour quand même.
Oui.
On va te voir pianiste alors.
Non, tu ne me verras pas pianiste. Non.
Enfin, pianiste, je dis ça. Je sais bien que tu joues pas de piano personnellement.
Oui.
Mais qu'est-ce qui te double pour les parties piano?
Personne, il y a pas de piano.
Il y a pas de piano?
Non, il y a pas de piano.
Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de Chopin?
Bah, en tout cas, dans celle-ci, il y en a pas, non.
C'est une vie nouvelle de Chopin, alors?
Bah, je ne vois pas.
Non, moi non plus, je vois pas exactement ce qu'on peut faire dans une vie de Chopin sans piano, ça me paraît.
Voilà ce qui s'est passé, c'est très simple. On m'a demandé, Monsieur Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de Chopin? Je dis, mais est-ce que ça m'intéresse beaucoup?
Oui,
c'est quand même tentant. C'est un très très grand projet.
Oui, c'est quand même tentant.
Donc, d'accord, pour la vie de Chopin, maintenant pour le piano, ça n'est pas possible.
Ah oui, c'est gênant.
Puis je suis trop vieux pour m'y mettre maintenant. On n'a plus l'agilité dans les doigts.
Une question de doigté, peut-être.
Et de toute façon, en 15 jours, je ne ferai pas quelque chose de bien épatant.
Tu n'as jamais joué?
Jamais.
Ah bah oui, alors non, faut mieux t'abstenir.
Donc, pour le piano, pas possible. Mais par contre, je joue très très bien de la trompette, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je vous propose, c'est un Chopin trompette.
Ah, tu leur as mis le marché en main, carrément alors.
Ah bah c'était un Chopin trompette ou pas de Chopin du tout, puis c'était
terminé. Ah bon, c'était à prendre ou à laisser. Oui, t'as accepté avec une trompette ou pas du tout.
C'est ça, oui.
Ce qui fait qu'ils ont remanié le scénario, enfin partant de là, quoi.
Remanié, c'est la vie exacte de Chopin, quoi.
Oui, il y a l'instrument qui change, quoi.
Oui, mais enfin ça c'est pas grave,
c'est pas très grave, bien sûr.
Non, c'est pas la vie de l'instrument qu'on fait, c'est la vie de Chopin.
Oui, je sais bien, de toute manière, qu'il soit trompette ou pianiste, c'est toujours le même.
Alors, j'ai...
petit hommage évidemment à Michel Serrault avec tout de suite la musique du Viager, signé Gérard Calvi, et puis juste avant donc Poiré et Serrault dans un merveilleux sketch qu'on voudrait écouter en entier, mais bon, c'est un peu long. Vous avez vu ces numéros, Pierre Charnière?
Bien sûr, oui. Ils ont commencé, moi je me gourre toujours dans les dates, c'est en 53, je crois, qu'ils ont commencé leur numéro au Tabou. Et très vite, je les ai utilisés dans une émission de télé quelques semaines plus tard.
Et comment ça se passait? Parce que j'ai déjà entendu dire, bon, en fait, c'est quand même plutôt Poiré qui trouvait les idées, qui faisait les textes, et puis Serrault était plutôt interprète.
Écoutez, j'ai vécu avec eux, on a travaillé ensemble, je peux vous dire comment ça se passait. Rien n'a jamais été rédigé, écrit avec un stylo sur du papier. En dehors de Jean, c'est Jean qui faisait ça. Mais en fait, il cherchait un thème pendant longtemps pour faire un nouveau numéro. Il cherchait le thème et puis un jour, ils décidaient qu'ils allaient faire un personnage de chef d'orchestre. Bon, alors ils commencent à se raconter des folies tous les deux et puis à bâtir. Et une fois que c'est bien bâti, c'est Jean qui prend la plume et qui rédige.
C'est ça.
Et la rédaction, elle va ensuite repasser par leur improvisation. Quand ils écrivaient leurs sketchs, les sketchs faisaient 20 minutes. Uh-huh. Mais la première fois où ils le jouaient, ça durait 1h15 parce qu'ils improvisaient. Mais ils ne pouvaient le faire que tous les deux. C'était l'alliance de ces deux hommes exceptionnels. Créer quelque chose d'unique.
Enfin, toujours est-il que quand vous avez fait votre film si populaire, Le Viager, vous avez tout de suite pensé à Michel Serrault.
Ah oui, bien sûr. Et pour Michel, c'était intéressant et important. Et n'oubliez pas que je l'ai écrit avec René Goscinny.
C'est ça.
Et la distribution, on l'a faite en pensant à nos personnages. Sans même prévenir les comédiens, mais en se disant ça serait très bien que ce soit... Mais Michel, lui, il en a été informé très vite.
Justement, puisque nous sommes sur France Musique, je voudrais encore vous poser une question qui a rapport avec la musique, parce que votre grand ami René Goscinny a fait avec Uderzo un certain nombre de films autour d'Astérix, et vous vous êtes retrouvé d'une certaine façon conseiller musical pour ces films. Il vous a demandé conseil, en fait, parce qu'il avait des problèmes de montage, de construction, il n'était pas sûr de lui, et puis vous avez trouvé une idée justement de chansons et de numéros musicaux.
Vous parlez d'Astérix et Cléopâtre.
Oui.
Oui, ce qui s'est passé, c'était à une date dont je me souviens bien, c'était en 1968. Et il y avait Uderzo et René ont travaillé, et puis ils ont été jusqu'au... ils ont pratiquement écrit complètement leur scénario, et ils sont aperçus qu'il était trop court.
Voilà.
En général, les films... mais c'était vrai chez Disney aussi. Les films de dessin animé de long métrage faisaient 1h20. Et eux, ils avaient bien serré tout ça et ça faisait à peu près 1h05. Mmh. Ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas eu des idées pour faire 3 séquences qui puissent s'insérer dans le film sans donner le sentiment de faire du remplissage? Alors j'ai cherché et j'étais content qu'ils me demandent ça, et j'ai eu le plaisir de leur proposer 3 séquences, et ils ont été d'accord, et on les a fait, et elles se sont complètement intégrées dans l'ouvrage.
Et c'est comme ça notamment que vous êtes devenu auteur de chansons.
Oh oui, c'est beaucoup dire, mais oui, j'ai fait le... Qu'est-ce que vous allez passer?
Parce le
que
gâteau empoisonné.
Je vois venir.
Le gâteau
venir,
empoisonné, hein. Qui est une recette extraordinaire.
Le gâteau empoisonné, oui, qui est interprété par mon vieil ami Bernard Lavalette.
Voilà, que j'ai eu le bonheur de recevoir dans cette émission d'ailleurs, et j'espère qu'il y reviendra. Alors on l'écoute tout de suite, ce gâteau empoisonné, extrait d'Astérix et Cléopâtre.
Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites-y dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Ah,
bon.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah
bon.
Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de grès, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non. Oui.
Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des
Gaulois.
Et c'est encore Gérard Calvi qui a fait la musique de cette chanson, Pierre Charnia.
Et je dois dire qu'il y avait, quand on voit la séquence, il y a un petit accent qui a été rajouté par Uderzo. C'est une petite souris. Il y a une petite souris qui regarde tout ça et, ah oui. Et ça ajoute beaucoup à l'intérêt de la séquence.
Pierre Tchernia, malheureusement, on resterait bien des heures avec vous à évoquer tous ces souvenirs.
Mais je peux pas. Mais... je peux pas parce que j'ai une émission sur une radio voisine.
Voilà.
Et ils m'ont dit d'amener des disques de Van Paris, de Gérard Calvi.
Alors on va juste quand même parler un petit peu de télévision. Je voulais surtout parler de musique aujourd'hui pour justement pas faire la même chose que d'habitude. Mais on va quand même parler un peu de télévision parce que une chose, par exemple, qui m'a frappé, on entend quelquefois dire, c'est un peu un lieu commun, la télévision depuis les années 80 est beaucoup plus libre après la chape de plomb du gaullisme, etc. Et vous dites un peu autre chose. Vous dites la télévision du début était beaucoup plus libre que celle qu'on a fait par la suite.
Oui,
beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus déluré, beaucoup moins. Enfin,
je trouve très difficile de faire des comparaisons. Je trouve surtout très embarrassant de dire c'était mieux avant.
Eh oui, c'est toujours difficile, mais ça arrive.
La télévision, ce n'est jamais que quelque chose qui se colle sur une époque. Et sur cette époque, il y a les gens qui l'habitent, cette époque. Il y a les habitudes, il y a les goûts. Alors, je trouve très, très, très difficile de dire ça.
On dit souvent que la télévision des débuts, je veux dire, n'était pas du tout formatée. Finalement, tout était à inventer. Donc, il y avait une grande liberté.
Ah ben oui, mais c'est ça qui a été épatant, vous comprenez. Jusqu'aux années 60, la télé est dans la création. Elle est en train de s'inventer petit à petit. Et les années 60, c'est les années de montée de l'audience. Rendez-vous compte, il y a 1 million de postes en 59, il y en a 10 millions 10 ans plus tard. Et le début des années 60, c'est fin 59, il y a une révolution dans l'information, puisqu'il y a 5 colonnes à la une. Et puis ensuite, vous allez avoir Bonne Nuit les Petits, vous allez avoir Belphégor, vous allez avoir Thierry Lafronde. Tout ça, ce sont les années 61, 62, 63. Et puis ensuite, il va y avoir la deuxième chaîne sur la fin des années 60. Alors tout ça, ce sont des bouleversements. Et la télévision qui, dans les premières années, est quelque chose que l'on regarde avec attention. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit un jour une chose très juste. Il m'a dit, mais vous comprenez, dans les années 50, c'était pas une émission qu'on regardait, c'était la télévision. Le fait qu'elle fonctionne et les speakerines, pourquoi étaient-elles là? Justement pour excuser les avanies, les embarras, et la phrase. Magique, c'est quand à la fin elle disait et nous sommes maintenant en mesure de reprendre notre programme. Oh, Oh, je pense que dans la France entière, on devait applaudir. Enfin, on va reprendre notre programme.
Par ailleurs, c'était pas encore un enjeu de pouvoir très important. Non. Donc, on vous laissait un peu tranquille, d'une certaine façon.
Oui, mais moi, je sais que... Bah, écoutez, moi, j'ai vécu un exemple. En 55, je décide de quitter le journal télévisé parce que ce que j'avais pu y apprendre me suffisait. Et Jean Darcy, le merveilleux directeur de la télévision de l'époque, me dit « Alors Pierre, vous venez au programme ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Il me dit « Alors, il y a une chose qu'il faut absolument faire, il faut faire une émission de chansonniers. Vous voyez, à la radio, tous les dimanches, il y a l'émission des chansonniers, les gens suivent ça avec passion, pourquoi on le ferait pas ?» Ah, j'ai dit « Oui, bien sûr. » Alors, vous mettez ça en route et vous venez m'en reparler. Et je me suis dit « Ça, c'est formidable, si on fait une émission de chansonniers, je vais aller chercher Rocca et Grelo. » Pourquoi ? Rocca et Grelo étaient des chansonniers jeunes par rapport à Dorin, Marsac et tout ça. Et ils avaient créé la Tomate, qui était un cabaret dans lequel on utilisait le film 16 mm, dans lequel on faisait des fausses publicités. C'est-à-dire qu'on faisait, ils faisaient à la Tomate des plaisanteries, mais des plaisanteries visuelles. Ouais. Alors c'était complètement nouveau. Je me suis dit, mais c'est eux qui doivent venir. Et quand je leur ai parlé de ça, ils ont dit « On va faire de la télé ». Et alors on a fait de la télé pendant 5 ans. C'était pas simple parce que souvent on était obligé d'improviser. Mais les techniciens adoraient ça. Les réalisateurs, il y a eu François Châtel, il y a eu Marcel Bluval. Ils étaient tout heureux de se donner du mal pour qu'on réussisse dans le peu de temps qu'on avait à préparer. Et puis on a commencé à avoir des soucis. C'est-à-dire qu'on est arrivé, je vous résume tout, on est arrivé un jour où on nous a dit il faut désormais que la boîte à sel soit enregistrée 3 jours avant sa diffusion et qu'il soit examiné par la direction. Ah, voilà. Alors comme on avait été complètement libre toutes les années qui précédaient, on a dit écoutez non, on n'a aucune raison de se livrer à de la censure, on préfère s'en aller. Et on a arrêté, on a fermé la boîte à sel.
Enfin, heureusement, comme vous n'êtes pas un tempérament mélancolique et que vous n'êtes pas du genre à dire « c'était mieux avant », finalement, vous continuez quand même à suivre tout ça avec curiosité, avec amusement. C'est...
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et n'oubliez pas cette phrase que j'ai si souvent citée. C'est la phrase que Beaumarchais a mis dans la bouche de Figaro. « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ».
Ah ben voilà, une conclusion idéale, malheureusement un peu tôt pour mon goût Pierre Tchernia, mais vous allez quand même nous dire encore un mot sur la chanson avec laquelle on va se quitter, parce que c'est vous qui l'avez choisie, Le Père Noël et la petite fille de Georges Brassens.
Ben oui, parce que moi c'est une des joies de ma vie, j'ai connu Georges Brassens qui m'a donné un peu de son amitié, et c'est un être exceptionnel. Et quand vous m'avez dit on pourrait mettre une chanson de Brassens, j'ai dit on va pas reprendre les choses qu'on connaît toujours. Et Le Père Noël et la petite fille est une chanson peu connue, mais qui est extrêmement émouvante. C'est l'histoire d'une... Bon, ben vous allez voir. Okay. Il l'explique beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Et vive la vie.
Mais vous nous avez beaucoup expliqué de choses mieux que nul autre ne saurait le faire. Merci Pierre Tchernia d'être venu. Et j'espère à bientôt.
Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité. Et vive la vie !
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches.
Le Père Noël et la petite fille, une chanson de mon invité Pierre Tchernia que je recevais dans Étonnez-moi Benoît le 8 mars 2008. Samedi prochain, nous avons rendez-vous avec une autre invitée, Madame Zizi Jeanmaire.